Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Dieunor Excellent, candidat aux élections municipales à Villetaneuse. Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Barrière, merci pour cette invitation et je salue les auditrices et auditeurs de Radio Orient.
Alors merci à vous, nous commençons bien sûr cette émission par le décès de l'ancien président Jacques Chirac. Hier jeudi, à l'âge de 86 ans, il y a eu l'hommage du président Macron hier soir. Des proches de Jacques Chirac se sont exprimés depuis 2 jours, mais on perçoit aussi sur les réseaux sociaux une grande émotion de la part des Français. Vous qui êtes de sensibilité, de gauche, d'un courant politique qui n'est pas celui de Jacques Chirac, vous êtes également ému par la mort de l'ancien président de la République.
Bah, écoutez, premièrement, je voudrais vraiment, à toute sincérité, faire part de mes condoléances à toute sa famille, sa femme, qui a toujours été à ses côtés, ses proches, ses amis aussi politiques, aussi toutes les personnes qui l'ont accompagné pendant toute cette période où on sait qu'il était malade, qu'il était suivi, soigné. Et je pense qu'aujourd'hui, ces personnes sont touchées. Sont meurtris pour certains parce que c'est un homme qui a apporté beaucoup à sa famille politique, qui a aussi apporté des choses positives à la France. Donc oui, bien sûr, je me sens concerné en tant que responsable politique, en tant que républicain, de la disparition de notre ex-président, M. Jacques Chirac, qui a été un président hors norme de la République française, de notre 5e République.
Depuis hier, tous les médias mettent en avant tel ou tel aspect de la longue carrière politique de Jacques Chirac. C'est même très impressionnant. Il y a aussi beaucoup d'images qui sont dans nos mémoires. Chacun, finalement, a son Chirac. Vous, Dieunor Excellent, quelles images vous viennent spontanément à l'esprit ?
Moi, personnellement, Jacques Chirac, c'est avant tout, oui, la longévité d'une carrière politique. On peut parler de carrière parce qu'il a quand même été 2 fois président de la République sur la 5e République. C'était les septennats. Il a été 2 fois Premier ministre, 10 fois ministre, maire de Paris de 77, je crois, à 95. Donc oui, c'est de la longévité. C'est quelqu'un qui a connu plusieurs tendances, des courants politiques. Il a mis en place quand même le RPR, qui n'est pas rien. C'est l'héritier même du général de Gaulle, on peut dire, qui a porté le gaullisme dans toute son apogée. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas rien, ce parcours. Et c'est la raison pour laquelle, oui, aujourd'hui, tout le monde a quelque chose de Jacques Chirac, parce qu'il a marqué le temps politique français. Après, bien sûr, aujourd'hui, l'heure et au recueillement, aux émotions. Donc, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, non plus tout ce qu'il a fait. Je suis aussi d'accord avec des positions, oui, qu'il a prises, notamment en refusant de laisser la France partir dans cette escalade de guerre en Irak. C'était une position courageuse. Sa position aussi en termes géopolitiques dans les conflits israélo-palestiniens, il a toujours eu une position objective, neutre, humaniste. C'est quelqu'un qui a donné une autre image à la France. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui a su bâtir une vraie relation diplomatique avec le reste du monde, tout en gardant sa sincérité, tout en défendant les intérêts de la France, mais tout en restant dans une démarche gaulliste de respect aussi des peuples avec leur autonomie et aussi cette volonté de ne pas rester dans une démarche, où on imposerait une vision de la politique internationale.
Vous évoquez justement cet aspect-là de la politique de Jacques Chirac, Dieunor Excellent. Sur le plan international, on a tous en mémoire Jacques Chirac protestant contre la police israélienne à Jérusalem.
Tout à fait.
Les images ont été partagées à de nombreuses reprises depuis hier. Il y a aussi le refus, vous l'avez dit, de l'ancien président de participer à la guerre contre l'Irak. On se rappelle aussi son soutien au Liban et son émotion après l'assassinat de son ami Rafik Hariri, ou bien encore de son extraordinaire popularité lors d'un voyage en Algérie. C'était une époque finalement où, grâce à Jacques Chirac, la France était très appréciée dans le monde, en particulier dans le monde arabe, peut-être aussi en Afrique. Vous pensez que les hommes politiques actuels devraient s'inspirer de lui sur ce plan. Tout le monde lui rend hommage, mais est-ce que finalement, lui rendre hommage, ce serait finalement de s'inscrire dans ses pas ?
Oui, je pense que l'hommage qu'on pourrait rendre à Jacques Chirac, c'est inscrire la France dans cette démarche d'une politique diplomatique pacifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face quand même à Donald Trump qui inscrit les États-Unis d'Amérique dans une forme d'unilatéralisme total, voulant faire la guerre à tout le monde, voulant être dans une démarche purement une vision américano-centriste. Et on était dans autre chose avec Jacques Chirac, et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ça soit bien ou à l'échelle européenne, oui, le meilleur hommage qu'on pourrait lui rendre, c'est de s'inspirer justement de ses positions courageuses, il faut le dire, parce qu'à l'époque, tout le monde avait suivi quasiment les États-Unis d'Amérique dans cette escalade, on parlait de la guerre d'Irak. Et aujourd'hui, force est de constater, oui, ils ont eu tort. Tout ce qui a été dit avant, qu'il y avait des bombes à destruction massive, que le régime de Saddam Hussein était un danger pour tout le reste du Golfe, c'était carrément faux. Et il a eu une position courageuse, dont certains, oui, politiques actuels, à l'échelle européenne, à l'échelle aussi, on peut dire, internationale, pourraient aussi s'en inspirer, et c'est une très bonne chose. Après, sur la question de l'Algérie, bien sûr, il était dans une démarche de réconcilier aussi le peuple algérien avec la France, parce qu'il y a eu aussi l'histoire du colonialisme et tous les méfaits, justement. D'ailleurs, il y avait cette controverse par rapport à ce projet de loi qui visait à faire reconnaître les bienfaits de la colonie, notamment en Algérie. Et d'ailleurs, ça a créé justement des dissensions entre même les représentants politiques algériens, le peuple algérien même et la France. Mais il a toujours quand même cherché à concilier ces deux mondes, cette histoire. Il a toujours cherché aussi des fois à reconnaître, notamment on sait que il y a eu des massacres qui ont été reconnus. Le massacre de Sétif, c'était pas rien. C'est l'ambassadeur même de France en Algérie qui a reconnu ce massacre. C'était
un événement. Ça s'est passé après Jacques Chirac. Mais en tout cas, c'est peut-être.
Il y a eu un travail qui a été fait, justement, qui a amené justement à ces apaisements pour sortir vraiment de contexte plutôt hostile et où chacun se rejette et on refuse de pas faire table rase du passé, mais de voir comment on peut construire ensemble un futur pour le reste du monde.
Dieunor, excellent. Vous êtes élu d'opposition dans une ville qui s'appelle Villetaneuse. On va en parler. C'est une ville de banlieue. Hier, en préparant avec la rédaction de Radio-Orient le journal, nous avons pu réécouter un discours prononcé par Jacques Chirac un certain 14 novembre 2005. Il répondait alors à la crise des banlieues et il a prononcé une phrase qui a beaucoup marqué à l'époque, qui est celle-ci. « Je veux dire aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu'ils sont tous les filles et les fils de la République. » Dans ce même discours, il appelait les partis politiques et les médias à refléter la diversité française, il dénonçait les discriminations. Alors certes, des progrès ont été faits, mais est-ce que vous avez le sentiment que sur cette question de la diversité, des discriminations, de la relégation sociale, finalement, le discours de Jacques Chirac reste malheureusement d'actualité ?
Non seulement ce discours reste d'actualité, mais c'est l'écart qu'on peut avoir entre un discours et une décision politique forte qui peut apporter des solutions concrètes. Jacques Chirac, on se souvient tous qu'il a fait campagne en 1995 sur la fracture sociale. Et c'est dire qu'il pourrait un homme libéral, d'une politique libérale, plutôt moins orienté à gauche, il a quand même constater que réellement, même s'il n'a pas mis en œuvre cette politique ou cette vision qu'il avait de cette société qui était réellement dans une vraie fracture sociale, et force est de constater qu'entre le discours et ce qui était mis en œuvre, il y a un écart énorme. Donc je pense que oui, on aurait pu faire mieux, il aurait aussi pu faire mieux sur ces questions, parce que là, on parle de quelqu'un qui avait une certaine autorité, qui avait une certaine légitimité dans ses orientations et ses choix politiques. Et je pense que lui-même, de son vivant, oui, il aurait pu faire mieux. Aujourd'hui, on constate qu'on n'a pas plus avancé sur les questions de la représentation des personnes dites issues de la diversité dans les médias. Ça n'a pas plus avancé. Sur les questions de discrimination à l'embauche, de discrimination aussi d'entrée dans les grandes écoles ou sur les postes à responsabilité, on n'a pas plus avancé. On constate encore ce plafond de verre qui existe. Aujourd'hui, il y a encore des sondages, des testings qui montrent que réellement, on n'a pas avancé sur ces questions. Donc, le discours, oui, mais les politiques concrètes même s'il y a eu de la politique de la ville, même si on a voulu corriger certains écarts en donnant plus de moyens, plus ou moins, notamment sur les politiques de rénovation urbaine ou les politiques éducatives au quartier populaire, mais aujourd'hui, force est de constater que cet écart, cette fracture sociale, existe encore et on peut aller, on peut faire mieux.
Pour cela, les élections municipales seront un test aussi. On a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron, pour la première fois, une Assemblée nationale qui représentait toute la diversité de la société française. C'était véritablement une première.
Oui.
Pour l'instant, les maires issus de l'immigration, venant des Outre-mer en métropole, sont extrêmement rares. Vous souhaitez que cette diversité soit reflétée à l'occasion de ces municipales, Dieu Nord excellent.
Il y a une réalité qu'on ne pourra pas nier, en tout cas. Les personnes, comme on dit, qui sont issues de l'immigration, bon, que ça soit subsaharienne, africaine ou des DOM ou ailleurs, même si les départements d'outre-mer, ce sont des territoires aussi français, se sont impliqués, se sont engagés, se sont intégrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand moi encore, on me parle d'intégration des fois, donc je ne sais pas ce que je dois dire de plus, quel verbe que je dois conjuguer, à quel temps, je ne sais plus ce que je dois dire. Nous sommes intégrés, nous faisons partie de la France, nous sommes français, bien sûr, avec des origines diverses et variées. D'ailleurs, on vient tous de quelque part. Je ne connais personne qui est... Tout est question de souche, ça on l'entend moins aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, oui, par l'implication, par l'engagement des personnes issues de d'autres régions du monde, oui, bien sûr, il y a une autre représentation. D'ailleurs, on l'a très bien vu, même en 2014, certains maires qui étaient sortants, qui se sont représentés, ils ont diversifié énormément leur liste. C'est-à-dire, parmi ces colistiers, on avait vraiment une diversité qui était représentée. Donc, le fait que Emmanuel Macron permet, et ça, il faut le reconnaître, oui, il l'a fait plus que tous ses prédécesseurs, l'émergence de personnes issues vraiment de divers milieux sociaux, professionnels, aussi donner plus de publicité à des femmes aussi, d'arriver en responsabilité, c'est pas quelque chose qui s'est fait par charité de cœur, c'est parce qu'il y a une réalité sociologique, politique, qui fait que, ben oui, ces personnes sont là et ont des compétences et ont un parcours aussi politique aujourd'hui et les citoyens, les électeurs se reconnaissent aussi à travers aussi ces personnes qu'on a souvent dit représenter la diversité. Aujourd'hui, vous verrez que le terme de diversité revient moins qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Il y a une certaine légitimité dans l'espace politique de personnes comme moi, on peut le dire ainsi. J'ai un parcours politique, j'ai un parcours professionnel, j'ai un parcours scolaire et je peux être en responsabilité demain, être maire d'une ville et pouvoir bien gérer ma ville comme n'importe quel maire.
Encore un mot sur Jacques Chirac, puisque son exemple aussi peut nous être utile pour parler de l'actualité politique d'aujourd'hui. SOS Racisme, Dieu Nord excellent, a rappelé qu'en mai 2002, Jacques Chirac a été un rempart à l'extrême droite. Il a toujours refusé des alliances avec le Front National. Pour le coup, on a vu que ces dernières années, les digues ont sauté. Des gens venus de la droite, comme Thierry Mariani ou Nicolas Dupont-Aignan, sont prêts désormais à travailler avec Marine Le Pen.
Oui, ça on peut le voir. Déjà, l'histoire même des scrutins nous le montre. En 2002, Jacques Chirac face à le père Le Pen, on va dire comme ça, parce qu'il a la fille.
Un choc pour tout le monde.
Un choc pour tout le monde. Il fait l'unanimité. Il remporte le second tour avec 82,1% des voix exprimées. Là, on arrive en 2017, où on voit quand même les cas où on retrouve la fille Le Pen au second tour. Et là, on constate que Emmanuel Macron, aussi populaire, aussi incarnant le renouveau, il fait 66% et Marine Le Pen fait quand même 33%. Donc là,
avec des partis politiques qui n'appellent pas clairement à voter contre Marine Le Pen. Pense notamment à la France Insoumise.
Tout à fait.
Et puis même certains leaders républicains n'ont pas été clairs.
Jean Dupont-Aignan, à un moment donné, il a été clair. En tout cas, il a montré qu'il était vraiment dans la démarche.
Lui, il voulait être le premier ministre de Marine Le Pen.
Alors que 10 ans...
Certains dans le parti républicain n'étaient pas clairs.
Tout à fait. Et 10 ans même auparavant, ce même Nicolas Dupont-Aignan, il n'aurait pas franchi cette digue. Donc oui, cette digue a été franchie depuis belle lurette. Alors qu'est-ce qui a contribué à ça? C'est cette lepénisation aussi des esprits. C'est aussi cette façon de stigmatiser justement certaines populations, notamment à des périodes électorales, notamment pour les élections présidentielles. On nous parle d'immigration, le même problème. Mais bon, après, aujourd'hui, oui, cette digue a été franchie par pas mal d'hommes politiques. C'est vrai que Jacques Chirac, ça, on peut lui reconnaître, même si, comme je dis aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de revenir sur les controverses.
Il y a eu des paroles malheureuses, effectivement.
On se souvient encore, mais même dans les années 91, il nous parlait des bruits et des odeurs en s'adressant à ses sympathisants.
Qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une chanson du groupe Zebda.
Tout à fait. Donc on se souvient de ces phrases qui peuvent en dire long, parce que à ce niveau de responsabilité, qu'on parle de bruits et odeurs en stigmatisant certaines communautés, certaines populations, donc c'est aussi faire, voilà. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à dire ce qui n'a pas été glorieux, parce que ça aussi, c'est un homme comme tout homme politique, qui a eu ses bons côtés et ses mauvais côtés, bien que je ne sois pas d'accord notamment sur ses politiques économiques, voire même sur la réforme des retraites qui avait été portée par Alain Juppé à l'époque, où il avait fait campagne justement sur la fracture sociale. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai que par rapport au Front National, en tout cas, la ligne était claire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas avec le président, l'ex-président Nicolas Sarkozy, ou d'autres membres aujourd'hui qui se réclament d'être des gaullistes. Aujourd'hui, on voit plus le gaullisme justement dans le positionnement idéologique de ces hommes politiques.
Alors, j'en viens à l'actualité de ces derniers jours, et puis on parlera tout à l'heure de Viltaneuse, du Nord est excellent. Est-ce que c'est une bonne idée de parler du thème de l'immigration à 6 mois de ces élections municipales ?
Alors, on peut parler de tout thème. On est dans le débat public. On peut parler de d'immigration, on peut parler de chômage, on peut parler de logement, on peut parler de sécurité, de tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, oui, on le constate. Il y a une loi qui a été votée en septembre 2018 sur la loi asile-immigration. Tout a été dit, ça a été clair. Il y a eu même des députés issus même de la majorité du président Macron qui ont voté contre cette loi, parce qu'ils estimaient qu'il y avait un recul. Quand vous maintenez des mineurs en détention, ça reste quand même des mineurs, ce ne sont pas des criminels. Aujourd'hui, les personnes qui doivent être détenues, ce sont des personnes qui ont une situation soit de criminalité, ou soit qui en attendent d'un jugement pour quelque chose qui nécessite une incarcération. L'accueil aussi des migrants, ce n'est pas laisser les gens se regrouper à un seul endroit, Porte de Paris ou certains endroits dans le 19e arrondissement, mais c'est aussi de répartir l'accueil des personnes qui fuient, ne l'oublions pas, des situations économiques, ce qui est légitime. On peut vouloir quitter son pays pour arriver dans un autre endroit où on peut avoir une qualité de vie plus digne. Les gens qui fuient aussi des situations de guerre. On peut aussi quitter son pays pour vivre dans un pays où on est en paix. Des personnes qui vont bientôt quitter leur pays pour fuir des situations de climat. Là aussi, cette immigration, il va falloir la gérer. Donc, aujourd'hui, je pense que la France, l'immigration n'est pas un problème pour la France. Notre économie, dont notre taux de natalité est très faible, une population qui est vieillissante de plus en plus, on l'a vu. Par exemple, l'Allemagne qui a accueilli massivement des migrants, c'est pas par beauté de cœur, c'est parce que l'économie allemande a besoin de renouveler aussi sa population. Ils ont besoin de plus d'actifs. Et en France, l'immigration n'est pas un problème. C'est la manière dont on traite l'immigration, la manière dont on peut stigmatiser justement les migrants, et aussi la manière dont on peut légiférer aussi en faisant croire que ce serait le problème et ce serait la priorité numéro une nationale. Quand on interroge les Français, l'immigration n'est pas la priorité nationale. Après, tout dépend comment on pose la question, à quel moment. Donc, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, à mon humble avis, que c'est un sujet qui est amené en débat public pour faire un peu de diversion, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont quand même importants, la question du climat, les sujets aussi sur la question de la réforme des retraites. On aura l'occasion d'en parler plus amplement un autre jour. Donc aujourd'hui, oui, à Viltaneuse, on accueille une population issue de l'immigration très importante. À Viltaneuse aussi, en Seine-Saint-Denis, on a un accueil énorme, notamment des mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés sur le territoire. Mais c'est pas normal que toutes ces difficultés soient regroupées sur un seul territoire, en tout cas soient majoritairement regroupées, et que ça soit pas traité à l'échelle nationale avec une meilleure répartition. Et cela pose la question aussi de la répartition de nos richesses. Aujourd'hui, il y a des départements qui peuvent accueillir aussi des personnes en situation migratoire, et qui peuvent aussi s'impliquer et se retrouver pleinement dans nos valeurs, et qui peuvent aussi s'intégrer et devenir des concitoyens partageant nos quotidiens.
L'invité de Pluriel est Dieunor, excellent candidat aux élections municipales à Viltaneuse. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Dieunor Excellent, candidat aux élections municipales à Villetaneuse. Alors, vous êtes un habitant de longue date de cette ville de Seine-Saint-Denis, vous avez été candidat à de nombreuses élections sur ce territoire. Quand des maires décident de ne pas se représenter, des maires qui parfois sont victimes d'insultes, voire d'agressions, vous souhaitez diriger une ville? Est-ce que vous comprenez ces maires qui décident de quitter la vie politique? On parle du blues des maires. Et j'ai aussi en mémoire un événement grave, la mort du maire de Signes, tué dans un accident alors qu'il était en train de verbaliser deux personnes qui commettaient des incivilités. Un drame qui a ému la France entière l'été dernier. Et l'émotion était palpable, notamment chez les élus.
Tout à fait. Ben, une pensée, une fois de plus, hein, pour, dans le cadre de cette situation, pour ce maire, qui était aussi apprécié et qui faisait son boulot de maire. Bon, heureusement que c'est pas dans toutes les villes de France et de Navarre qu'on se retrouve dans cette situation. On a plus de 36 000 communes en France chaque matin. Heureusement qu'on n'a pas un maire qui se fait agresser jusqu'à perdre la vie face à une situation de verbalisation. Ce qui est regrettable et inadmissible, et ce qui montre aussi que être maire d'une ville, c'est un sacerdoce aussi. C'est être le premier à être en face à des situations complexes.
Vous avez, des concitoyens, par exemple, qui ne sont pas contents parce qu'ils ont demandé un logement. Vous ne pouvez pas répondre à leur demande, vous allez les verbaliser parce qu'ils ont déposé des ordures dans un endroit qui n'est pas adéquat. Vous êtes préparé à cela ?
Mais oui, parce que bon, là, on a une responsabilité, on est censé garantir l'intégrité de tous, la salubrité, on est censé garantir le bien vivre ensemble, le bien-être. Et ça se fait dans un cadre légal. Après, il y a des services aussi qui travaillent et on prend des décisions avec les élus. Mais sur revenir sur la situation des blues des maires, il y a plusieurs cas de figure. Oui, ce maire, malheureusement, il y a eu cet acte inacceptable qu'on a tous condamné. Il y a aussi des situations de blues des maires. Bon, moi, visiblement, à Villetaneuse, ma mère, la maire sortante qui est là depuis quand même près de 30 ans, depuis 89, elle a eu 3 mandats de maire adjointe, puis là, 2 mandats de maire, elle se présenterait, je dis bien au conditionnel, on attend pour voir, on est en campagne, un autre mandat, donc ça lui ferait 36 ans si elle est réélue. Bon, visiblement, elle ne semble pas avoir le blues, elle devrait peut-être l'avoir, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut du renouvellement de la classe politique. D'ailleurs, là où je suis d'accord avec le président Macron, et là où il aurait dû aller même encore plus loin, ce serait de limiter le mandat de maire à 2 mandats, pas plus de 2 mandats, voire de 5 ans, 2 fois 5 ans. Le premier mandat, on met en œuvre, on lance des projets. Le deuxième, si les habitants, nos concitoyens estiment que on a déjà entamé des choses et ça va porter du fruit, on peut être réélu ou ne pas. Et à la fin, on laisse la place, on laisse la possibilité à d'autres personnes de pouvoir continuer. Parce que
Vous êtes en train de nous dire, si vous êtes élu en mars 2020, vous ne ferez que 2 mandats.
Bon, je pourrais faire 2 mandats, oui. Bon, moi, je pense que c'est quelque chose que
attention,
je pourrais prendre.
Attention, regardez l'enregistrement.
Ah oui, mais vous pouvez l'enregistrer si vous voulez. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités qu'on peut avoir. Chacun a un parcours. Moi, j'ai un parcours où je n'ai pas été dans les chaussettes de quelqu'un. Je n'ai pas été dans une démarche partitocratique où, non, je suis quelqu'un qui milite aussi associativement, avant tout, un citoyen qui s'engage pour sa ville, qui a envie de prendre des responsabilités. Donc aujourd'hui, j'estime que pour le bien-être de la démocratie, on ne peut pas rester 30 ans aux responsabilités, avoir les mêmes personnes, les mêmes politiques. Et le problème aussi qui se passe, c'est qu'une fois que ces personnes arrivent aux responsabilités, on a vu, bon, on a des cas, les Balkany ou autres, là, ça va encore plus loin. C'est devenu, c'est plus la maison commune, c'est la maison d'une personne avec ses amis, voire sa famille, je ne sais pas comment ils s'organisent certains. Mais je pense que pour le bien-être de la démocratie et pour donner envie au plus grand nombre de s'investir, de s'impliquer, il faudrait limiter les mandats dans le temps.
Est-ce que l'étiquette politique va compter lors de ces élections municipales ? Il y a beaucoup de maires qui se présentent sans étiquette, qui tentent de rassembler, de fédérer.
Alors là aussi, on a plusieurs cas de figure. La tendance serait d'être sans étiquette. Même ceux qui ont des étiquettes sont en train d'effacer leur étiquette pour ne pas être étiquetés.
Vous êtes de gauche,
moi je suis de gauche, je suis pragmatique, je suis écologique, je suis un citoyen qui s'intéresse s'intéresse à son quotidien, qui s'intéresse à l'évolution de sa société, de sa ville. Oui, bien sûr, moi, je n'ai pas d'étiquette.
Et vous êtes de gauche comme la maire sortante, quelque part.
Oui, mais après, gauche
difficile
pragmatique.
Difficile d'être de droite à Villetaneuse, j'imagine.
Ah, si, il y a des gens qui expriment. Après, qu'est-ce qu'être de gauche, qu'est-ce qu'être de droite ? Aujourd'hui, on est sur des politiques publiques à l'échelle locale. Il y a des orientations budgétaires que nous comprendra, qui n'ont pas été prises. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de la ville ? Nous devons orienter nos budgets en fonction des besoins réels des habitants, pas en fonction d'une politique purement partitocratique, idéologique, où on fait pour faire et refaire sans évaluer, sans chercher de la pertinence et de l'efficacité dans les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Donc là, là-dessus, moi, je reste avec mes valeurs républicaines, oui, de gauche, où je pense que si les gens sont pauvres, c'est pas de leur faute, il faut accompagner les gens à s'en sortir et non pas les maintenir la tête sous l'eau et faire en sorte que notre territoire se développe, que notre territoire devient un territoire attractif. Donc les maires qui se représentent avec ou sans étiquette, il y a deux cas de figure. Soit ce sont des personnes qui ont été fraîchement en responsabilité, qui ont fait évoluer leur territoire. Je peux prendre l'exemple du maire de Pierrefitte, M. Michel Fourcade. Bon, voilà, qu'on regarde la ville, elle a évolué, il y a des choses qui ont été faites. Il est parti se battre pour apporter des solutions concrètes sur des questions d'investissement. Contrairement à Villetaneuse, la ville qui est juste à côté, on nous a fermé des infrastructures, notamment une piscine qui n'a jamais été reconstruite et d'ailleurs on a investi dans le sable. Concrètement, rien n'a été fait. Positivement sur l'évolution de notre jeunesse en termes de politique éducative, culturelle, rien n'a été fait là-dessus. Donc, les rideaux sont encore baissés. Là, on est en période électorale, on commence à faire semblant de repeindre les murs, de relever les rideaux. Donc, c'est pas sérieux. Donc, à un moment donné, je pense qu'il est bon pour le renouvellement de la démocratie, pour faire avancer nos territoires, d'apporter des nouvelles politiques publiques avec des nouvelles personnes qui s'impliquent au quotidien pour leur ville.
Dieunor, excellent. Vous avez le sentiment que c'est une ville, Villetaneuse, qui a des potentialités qui ne sont pas exploitées.
Énorme. Aujourd'hui, c'est une ville, c'est 13 000 habitants, 13 000 étudiants, avec l'université Paris 13. Une zone économique qui n'est pas du tout développée. On a des interconnexions avec le T11, le T8. On a 50% de notre population, il ne faut pas le rappeler, à moins de 30 ans. Nous avons un taux de chômage qui avoisine les plus de 40% chez les 18-26 ans. Nous avons un potentiel énorme. On n'est pas loin des bassins d'emploi à Roissy. On n'est pas loin de Paris. Aujourd'hui, vous allez à Villetaneuse, il n'y a aucun commerce ouvert le soir. C'est une ville dortoir. Et on va faire en sorte que cette ville refonctionne correctement, que les jeunes aient envie de réussir, que les gens aient envie de s'impliquer. Une ville où, quand vous arrivez à Villetaneuse, je vous assure, vous demandez où est-ce que vous êtes malheureusement. Mais ça, c'était une volonté politique de ne pas développer ces villes. Aujourd'hui, on l'assume ce constat. Et c'est la raison pour laquelle, pour des raisons je ne sais pas lesquelles, peut-être électoralistes, misérabiliser la ville, tirer vers le bas, ne pas se projeter, aller vers l'avant. Aujourd'hui, on a l'aubaine de faire partie de pleine commune. C'est l'établissement territorial public qui a porté quand même du dynamisme.
Dirigé par Patrick Brausek,
oui,
entre autres, très entreprenant.
Tout à fait, il y a des choses qui ont été entreprises, mais j'ai l'impression que Villetaneuse est passée à côté de ce développement économique qui a été porté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? Je pense que les personnes qui nous représentent n'ont pas pensé aux intérêts aussi de notre ville. Et c'est la raison pour laquelle on va mettre en œuvre un programme bientôt qui sera présenté à la population, qui consiste à non seulement impliquer les habitants, mais faire travailler de manière intelligente les bailleurs, les habitants, les associations, des projets co-construits, travailler sur l'intelligence collective, avoir une autre vision de la ville sans être caché derrière des phrases misérabilistes où on veut faire du saupoudrage. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça suffit et ces villes ont besoin de prendre un autre tournant pour faire développer justement ces potentiels qui existent aujourd'hui. Et vous savez, Villetaneuse, on est dans une dynamique où les gens partent. Je ne connais personne qui a une situation convenable, économique, qui veut investir à Villetaneuse. Quand on discute avec les gens...
Pour quelle raison ?
Parce que cette ville n'est pas attractive. Peu de commerce, les écoles sont quasiment délabrées, il y a des situations qui sont inacceptables. Il nous arrive de dénoncer des choses. Il y a eu la bataille du centre commercial Auchan. Vous pensez bien que ce centre commercial qui est en entrée de ville, qui est un des poumons économiques de la ville, rien n'a été fait au préalable pour développer ce centre. Rien n'a été fait. Notre maire actuel ne s'est jamais intéressé à ce centre commercial réellement. Moi, je peux débattre avec elle sur ces questions. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu quelqu'un, en tout cas des personnes qui sont responsables depuis des décennies, on peut le dire ainsi, ont mis cette ville en arrêt sur image. Donc ce qu'on va faire, nous, en 2020, et on le dit bien dans nos slogans, Ville à nos autrement dès 2020, on va appuyer sur ce bouton arrêt sur image, on va remettre cette ville en avant,
en mouvement,
pour qu'elle puisse apporter tout son potentiel. Et vous verrez, les gens auront envie de venir habiter à Villetaneuse et non pas de fuir ou de chercher à aller jusque à côté des villes que je vais pas citer. Mais les gens vont habiter juste à côté de Villetaneuse et pas à Villetaneuse.
Dieunor excellent, vous avez dit nous à plusieurs reprises, un maire n'est pas un homme seul. Est-ce qu'on pourrait nous parler de l'équipe qui vous accompagne?
Alors, notre équipe est issu d'une méthode. Dès lors où j'avais décidé de repartir cette élection, ma priorité c'était de construire une équipe.
C'est votre deuxième candidature à l'élection municipale.
Tout à fait, l'élection municipale où en 2014 on est arrivé deuxième. Il n'y a pas eu les alliances nécessaires, notamment avec certaines formations politiques qui n'étaient pas prêtes ou des personnes qui n'ont pas vraiment joué le jeu. Je ne sais pas pour quelles raisons aujourd'hui, je ne saurais même pas vous répondre. Je pense qu'il y avait peut-être des intérêts cachés, je ne sais pas. Aujourd'hui, notre sujet c'était premièrement construire une équipe. Donc, on a rencontré beaucoup de personnes. On a mis en place ce qu'on a appelé la consultation des Villetaneusiens, une méthode d'enquête de terrain participative. On allait interroger les gens sur leurs préoccupations, leurs besoins. Ça nous a permis aussi d'identifier des personnes qui, visiblement, n'étaient pas connues sur la place publique parce qu'il n'y a aucun lieu où les gens peuvent se retrouver, d'identifier des acteurs potentiels nouveaux et de leur proposer de s'inscrire dans cette démarche. Deuxièmement, notre démarche a été de co-construire un projet. Le projet que nous allons bientôt présenter à nos concitoyens, c'est un projet qui a été bâti pendant plus d'un an avec une méthode de terrain, d'écoute, de diagnostic, de comparaison avec ce qui se passe ailleurs. Vous savez, il y a des décisions qui relèveront tout simplement du bon sens. Des fois, il y a des choses, on ne demande pas un investissement énorme, il ne faut pas construire un bâtiment, il ne faut pas embaucher des personnes supplémentaires pour mettre en place certains dispositifs. Donc ça, on va le faire. Troisièmement, c'est de construire vraiment ce travail collectif qui nous permet de décider ensemble. Donc, les personnes avec lesquelles je serai amené à travailler, ben, ça fait plus d'un an qu'on discute ensemble, qu'on réfléchit ensemble, qu'on co-construit ensemble notre projet. Et c'est un projet qui s'incarne dans la vision qu'on a de cette ville. Où en sommes-nous et où veut-on aller? Donc, là-dessus, les personnes qui m'entourent porte cette ambition, porte cette vision et porte ce projet pour ce Villetaneuse autrement dès 2020 sur des dispositifs qui relèvent du bon sens, tout
Alors,
simplement.
Des dispositifs qui relèvent du bon sens, Dieunor excellent. L'écologie aujourd'hui est un thème central pour les élections municipales. On demande beaucoup au gouvernement, mais on peut aussi faire des choses intéressantes au niveau local. Je pense aux déchets,
à
la question de l'énergie.
Tout à fait.
Quel maire écologiste serez-vous, puisque finalement tout maire doit être écologiste aujourd'hui?
Bien sûr, on l'a vu déjà avec au-delà de la canicule, on a vu que c'était nécessaire d'arrêter de bétonner partout. On va vraiment travailler sur nos parcs. Aujourd'hui, on a un potentiel énorme en termes de parcs. Vous avez sur des villes voisines, que je ne citerai pas, où il y a une volonté de valoriser ces espaces verts et de permettre que ça soit des lieux de détente, de bien-être et de non seulement de les conserver, mais aussi de diversifier et de sensibiliser les habitants à ces espaces. Deuxièmement, il y a un aspect qui est important, vous l'avez dit, la question des déchets. Aujourd'hui, oui, il faut rééduquer certaines personnes à consommer différemment, mais aussi à jeter différemment. Très peu de choses sont mises en place sur la question du tri collectif. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai dit que c'est un projet intelligent. On va travailler avec les bailleurs. Un bailleur a tout intérêt à avoir une bonne gestion des déchets dans son bâtiment, dans son quartier, parce que ça valorise aussi le patrimoine, quand même. Même demain, on veut louer, on peut facilement. Quelqu'un qui vient, qui voit que la ville est sale, il y a des déchets partout, il aura moins envie d'habiter dans cette ville. Donc là-dessus, on va travailler sur les questions du tri sélectif, le déchet. On va travailler sur des éco-parcs. On va travailler aussi sur la question de l'eau, ce qui est important. Nous, on est pour un service public de l'eau à l'échelle intercommunale. Il faut réfléchir aussi sur les questions de gaspillage alimentaire. On va travailler aussi sur les questions de, menus bio dans nos écoles.
Et il y a la loi
Egalim, tout à fait, bio et aussi végétarien. Aujourd'hui, on peut avoir un repas équilibré, végétarien. On peut travailler aussi, il y a la loi Egalim qui va être mise en œuvre en 2020, qui va en tout cas exiger aux collectivités de mettre beaucoup plus de bio dans les repas des gamins. Je sais pas, moi, quand je regarde mon enfant qui revient de l'école, qui n'a quasiment pas mangé, parce qu'on ne tient pas compte forcément de l'équilibre alimentaire de l'enfant, même sur l'aspect de la diversification des repas et aussi sur la question des repas bio. Et c'est possible aujourd'hui. Il y a des villes qui l'ont fait, donc on va beaucoup travailler sur tous ces aspects et aussi sensibiliser nos jeunes sur les enjeux climatiques. Je disais tout à l'heure sur la question de l'immigration. Ce sont des millions de personnes qui vont venir chez nous, en Europe, pour fuir leur région parce que ils n'ont plus d'eau, parce qu'ils n'ont plus d'arbres, parce que oui, ce sera des migrants climatiques. Il va falloir que nous, on commence à réfléchir sérieusement à ne pas détruire non plus chez les autres, parce qu'on contribue aussi à la destruction aussi des forêts, des richesses aussi minières aussi de certains pays voisins. Et en tout cas, nous, à Viltaneuse, les questions d'enjeux climatiques nous concerneront. Donc, on va aussi faire une éducation aussi écologique dans les écoles, avec les centres de loisirs, avec les écoles sur le temps périscolaire. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et on est, en plus, chez nous, on a quand même des personnes qui ont cette forte sensibilité écologique.
Vous avez aussi beaucoup d'associations, beaucoup, un tissu associatif
tout à fait,
très important.
Qui travaillent justement sur l'agriculture de proximité, biologique, et notamment, on veut aussi travailler sur le circuit court. Comment produire pour aussi fournir nos établissements. Ça peut être en fruits biologiques dans un premier temps. Ça peut, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire qui relèvent des fois de bon sens aussi, comme je disais tout à l'heure. Et on mettra tout ça en œuvre dans le bien-être de nos concitoyens.
Dieunor, excellent. Vous évoquez la question de l'école, puisque le maire est en charge des écoles primaires et maternelles. On sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants en situation de handicap ne peuvent pas suivre leur scolarité dans les meilleures conditions, parce qu'il n'y a pas d'AVS. C'est la responsabilité de l'éducation nationale. Néanmoins, en tant que maire, est-ce que vous aurez une politique inclusive vis-à-vis de ces enfants ?
Écoutez, plus qu'inclusive, parce que j'ai eu la chance pendant 5 années d'avoir fait de la socialisation et l'intégration scolaire, où mon rôle consistait à prendre en charge des enfants qui étaient en situation de handicap divers et variés. Et ce sont des enfants de la République, ce sont des enfants tout simplement qui ont droit à une scolarité comme tout enfant. D'ailleurs, la loi interdit de ne pas scolariser des enfants. Donc déjà, on serait dans l'illégalité. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, vous verrez dans notre projet, on inscrit cette question notamment de... Je parlais de besoins réels, d'orientation de nos budgets par rapport aux besoins réels. Oui, c'est un réel besoin dans nos écoles. Donc ça se passe par, oui, le recrutement de personnes, des AVS, des ATSEM, qui peuvent accompagner ces enfants pour qu'ils aient une scolarité comme les autres enfants. Et notre société a trop souvent... cacher le handicap. Aujourd'hui, ces enfants souvent restent seuls, isolés à la maison, à la charge seule de leurs parents, ou scolarisés dans des instituts spécialisés ou dans des établissements. Et même ces établissements ne peuvent pas accueillir tous ces gamins. Donc, je pense, et avec vraiment conviction et de par mon expérience en tant qu'enseignant ou personne ayant aussi travaillé avec des enfants scientifiques, que ces enfants ont toute leur place au sein de nos écoles de la République.
Dieunor, excellent, le Grenelle des violences conjugales doit permettre de trouver des solutions pour que cessent les féminicides. Alors la justice s'est mobilisée, la police également. Mais en tant que maire, vous avez aussi des leviers pour aider les femmes victimes de violences. J'ai vu que le ministre en charge du logement, Julien de Normandie, a discuté des logements d'urgence pour les femmes victimes de violences. C'est un sujet de préoccupation pour vous ?
Alors oui, c'est un sujet de préoccupation en termes de prévention déjà. Comment on prévient ces violences conjugales ? Et c'est la raison pour laquelle il faut intervenir avant même qu'il y ait coup mortel ou qu'il y ait des situations dramatiques. Trouver des leviers concrets, oui, logement d'urgence ou des espaces d'hébergement d'urgence. Là, ça incombe bien entendu à nous, élus locaux, mais aussi... L'État, aujourd'hui, il faut aussi que l'État soit plus exigeant sur ces questions. Peu de mesures concrètes sont prises. On le voit souvent, les femmes qui tombent, qui meurent sous les coups de leur mari, souvent ce sont des personnes où il y avait des mesures d'éloignement qui n'ont pas été respectées pour certains. Aujourd'hui, très peu de dispositifs qui permettent de protéger la personne susceptible d'être agressée est mise en œuvre, notamment les systèmes de bracelets électroniques qui pourraient être mis pour prévenir la personne susceptible d'être agressée que son agresseur potentiel est dans les environs. Donc il y a des choses qui sont possibles là-dessus.
Si vous êtes maire, vous conseillez aux femmes qui seraient victimes de vous interpeller, de vous prévenir,
bien sûr, de nous
pour
prévenir.
Pouvoir les orienter.
On peut les orienter notamment, mais aussi on peut les protéger. Aujourd'hui, il y aura des dispositifs sur lesquels on pourra rapidement les orienter. Et s'il faut faire intervenir, oui, les forces de l'ordre qui doivent intervenir, bien sûr. Il y a les mesures de protection, d'urgence qui doivent être prises, d'éloignement. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui sont prévus dans le cadre de la loi qui ne sont pas exercés. Souvent, les femmes ont peur d'aller porter plainte. Comment on peut accompagner aussi un dépôt de plainte ? Donc, ce sont des choses qu'on pourra mettre en œuvre aussi au sein de nos services, en sachant que ne rien faire, c'est pire. Les numéros d'urgence, c'est bien, mais les politiques de proximité où les gens ils savent qu'ils peuvent venir en mairie. Ok, la mairie, c'est la maison commune où les gens pourront venir aussi nous prévenir d'une situation compliquée. Il va falloir agir avec les services sociaux, avec aussi les forces de l'ordre quand il sera nécessaire, et aussi porter des solutions concrètes d'hébergement d'urgence ou de la médiation aussi familiale. Aujourd'hui, il y a un besoin de discuter avec ces personnes, de leur donner des espaces pour s'exprimer, et je pense que c'est des choses qu'on peut porter à l'échelle municipale. Je ne veux pas plus détailler notre projet qui n'est pas encore sorti, mais nous avons prévu des dispositifs qui permettront d'avoir des lieux d'échange, d'accueil, de partage pour aussi mettre en confiance des personnes et que ces femmes puissent s'exprimer pour éviter le pire.
Merci Dieunor Excellent. Je rappelle que vous êtes candidat aux élections municipales de mars 2020 à Villetaneuse.
En effet,
bonsoir.
Merci pour cette invitation.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.